On va partager donc un texte dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 14, pour situer un peu ce passage. C'est un prophète, Ézéchiel, qui vivait dans la cité de Jérusalem, qui a commencé son ministère dans la cité de Jérusalem, environ 600 ans avant la naissance de Jésus, et puis qui a été déporté à Babylone, quand l'armée de Babylone a attaqué Jérusalem. Comme tous les prophètes, donc il était là pour ramener le peuple à Dieu, porter le message de Dieu. Il avait deux missions. La première, c'était d'avertir le peuple de Jérusalem, qui était sur la mauvaise voie, de l'avertir du châtiment à venir. Et puis, il était là aussi, dans un second temps, pour réconforter et donner de l'espérance au reste du peuple de Jérusalem qui avait été déporté à Babylone. Et ce prophète qui a vécu il y a 2600 ans nous a livré un message qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. D'une part, quelle est l'attitude de nos cœurs qui déplaît à Dieu et quelles sont ses conséquences? Et d'autre part, quelle est l'espérance aussi que nous pouvons placer en Dieu? C'est un passage qui amène aussi quelques contradictions, puisqu'au début, on ne va pas lire le chapitre en entier, vous pourrez le lire, mais au début du chapitre 14, il est dit que Ézéchiel s'adresse aux anciens idolâtres, aux anciens qui avaient tourné le dos à Dieu et aux anciens qui vouaient un culte aux idoles. Et il y a là quelque chose d'incohérent. En littérature, on appelle ça un oxymore, c'est-à-dire qu'on associe deux termes en fait qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, presque qui sont opposés. Là, ici, on a des anciens. Les anciens, dans le peuple de Jérusalem, ils étaient censés être des guides, ceux qui amenaient le peuple vers Dieu, ceux qui rassemblaient, et en l'occurrence, ils étaient devenus ceux qui tiraient le peuple dans le mauvais sens, plutôt vers leur apostasie et vers la mauvaise pente. Et donc, ces anciens idolâtres, malgré tout, continuaient à venir devant le prophète Ézéchiel pour écouter ce qu'il avait à dire. Ils s'asseyaient devant lui. Et il est dit au verset 8 du chapitre 14, donc, que cette attitude déplaît à Dieu. Et il dit, « Je tournerai ma face contre cet homme, celui qui a ce comportement, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. » Donc c'est dans ce contexte que le chapitre 14 s'adresse au peuple de Jérusalem, un peuple qui est totalement corrompu, qui est même perdu, puisqu'il suit des anciens qui l'amènent dans la mauvaise voie. Le peuple n'a même plus la lucidité de voir que les anciens sont sur la mauvaise pente, et tout le monde suit ces anciens. À tel point que Dieu a prévu de détruire Jérusalem, et c'est ce qui va se produire donc en l'an 586, avant la naissance de Jésus. Donc on va lire le chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à de l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. » Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par la justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle, ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Voilà, donc comme je disais, ce texte, il nous parle encore aujourd'hui. Ça s'est passé il y a 2600 ans, mais ces questions sont encore d'actualité aujourd'hui. Au milieu de notre génération actuelle, comment serons-nous sauvés? Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, dans cette génération, en 2024, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Alors, le premier enseignement que l'on peut chercher dans ce texte va concerner les trois hommes qui sont cités, trois personnages bibliques, Noé, Daniel et Job. Qu'est-ce qui fait que ces trois hommes, en fait, seraient sauvés, puisque eux seuls seraient sauvés ? Qu'est-ce qui fait que ces trois hommes seraient sauvés ? Pourquoi sont-ils à part du reste du peuple ? Donc, j'ai cherché dans l'Écriture, j'ai cherché quels sont les points communs, les similitudes entre ces trois personnages. Et j'ai identifié trois critères qui sont communs aux trois, et je pense que l'on peut garder en mémoire, garder dans nos cœurs et s'approprier. Le premier, c'est que ce sont des hommes intègres. Pour Noé, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 9, il est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Première caractéristique très intéressante, il était juste et intègre dans son temps, parce que lui aussi vivait dans un temps très particulier, mais il avait gardé une intégrité vis-à-vis de Dieu. S'agissant de Daniel, chapitre 6, verset 10, il est dit que trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Comme Ézéchiel, Daniel avait été déporté à Babylone. Malgré tout, il avait gardé cette droiture de cœur vis-à-vis de Dieu, cette intégrité. Pour Job, dans le chapitre 1, verset 1, il est dit « Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. » Voilà donc une première caractéristique qui est importante, c'est l'intégrité, c'est la droiture du cœur devant Dieu, c'est le fait de marcher avec Dieu et de lui être fidèle. La deuxième caractéristique, c'est que ces trois hommes ont vécu dans des époques différentes dans l'humanité, mais ils ont la particularité et le point commun d'avoir vécu dans des générations corrompues, des générations hostiles à Dieu. Pour Noé, au chapitre 6 de la Genèse, verset 11, il est dit que la terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence. Et on a là un homme qui, dans une génération complètement corrompue, a construit une arche de 140 mètres de long. Je pense qu'il a dû passer des moments difficiles. Malgré tout, il est resté le regard fixé sur Dieu, sur ce que Dieu lui avait demandé, et il a avancé. Pour Daniel, il est dit, au chapitre 1, livre de Daniel, chapitre 1, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel, il était dans un environnement, donc il avait été déporté, il était à la cour du roi, et il était dans un environnement complètement étranger à Dieu, un environnement dans lequel il était peut-être seul contre tous. Malgré tout, il a pris position dans cet environnement hostile. Il a pris position, il a résolu de ne pas se souiller. Il a refusé de manger les mets que le roi voulait faire manger à sa cour. Et lui, il a dit, voilà, je me préserve, je ne me souillerai pas, je ne prendrai pas de cette nourriture. Pour Job, au chapitre 1, verset 8, il est dit que l'Éternel a dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. » Donc, dans sa génération, Job était un cas unique. Il n'y avait personne de comparable à Job sur la terre. Voilà donc la deuxième caractéristique. Dans un environnement corrompu, hostile à Dieu, même si on est incompris ou moqué, peu importe, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous restions fidèles à sa parole, que nous restions droits, et que nous nous mettions justement à part. Le troisième point commun, c'est que c'était des hommes de prière, des hommes d'intercession, des hommes qui étaient en relation avec Dieu, qui étaient connectés à Dieu et qui étaient entendus de Dieu. Concernant Noé, il est dit au chapitre 6, verset 18 de la Genèse, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Noé avait construit cette arche, il avait tenu bon, il a fait ce que Dieu lui a demandé de lui, et Dieu va bénir la famille de Noé par cette alliance. Noé va sauver sa famille, il va même sauver l'humanité, puisque seule sa famille va survivre au déluge. Et donc, cela a été rendu possible parce que cet homme était connecté à Dieu et qu'il était entendu par Dieu. Concernant Daniel, Daniel, dans un environnement, encore une fois, qui était compliqué, il a tenu bon et il est toujours resté fidèle à Dieu dans la prière. Quand le roi Nebuchadnezzar a un songe qu'il ne peut expliquer, il se tourne vers les sages de la cour et leur demande de l'expliquer. Personne n'est capable parce que personne ne sait de quel songe il s'agit. Et donc, ils sont tous menacés de mort. Le roi menace de tous les tuer. Et que va faire Daniel ? Il est dit qu'il retourne dans sa maison et il informe ses amis, ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria. Il les informe de la situation, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Et il est dit un peu plus tard, « Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc cette attitude qui plaît à Dieu, cette attitude de prière, cette attitude de le considérer comme notre secours et de l'invoquer par la prière, cette attitude produit un effet, et ici, le secret a été révélé à Daniel, et cette attitude a pu sauver tous les sages de la cour qui étaient promis à la mort. Et enfin, pour Job, il est dit dans le chapitre 1, au verset 5, que Job, tous les jours où ses enfants faisaient des festins, il appelait, il sanctifiait ses fils, et ensuite il offrait des holocaustes à Dieu. Et il est précisé donc qu'il faisait cela parce que peut-être ses fils ont péché, qu'ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Il avait cette attitude d'intercéder, d'avoir le souci de présenter à Dieu les offenses de ses enfants. Et un peu plus tard, à la fin du livre de Job, il est dit que l'Éternel, chapitre 42, verset 9, il est dit que l'Éternel eut égard à la prière de Job. La prière de Job, c'était de demander à Dieu sa clémence pour ses trois amis, ou faux amis, je ne sais pas, qu'il avait accompagné pendant sa maladie, et ses amis avaient également offensé Dieu. Mais Job avait intercédé pour eux, et l'Éternel l'avait entendu. Voilà donc les trois points communs entre ces trois hommes qui sauveraient leur âme par leur justice, c'est ce que dit le verset 14. Ils ont fait partie, dans l'exemple qui est donné ici, ils font partie du peuple qui subit les châtiments. Ils sont parmi le peuple, donc ils subissent eux aussi les quatre fléaux. Ils les subissent comme les autres. Par contre, eux sont sauvés parce qu'ils sont intègres, parce qu'ils se sont mis à part pour Dieu et parce qu'ils sont restés fidèles en prière. Cette attitude de justice, ce qui est dit, c'est qu'ils sauveraient leur âme par leur justice. C'est le souci d'être en conformité avec la volonté de Dieu. Le fait de se soumettre à l'autorité de Dieu, de se placer devant lui avec une attitude de cœur, de dépendance totale. Et le meilleur exemple pour nous, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui s'est donné, qui a obéi jusqu'au bout à la volonté de son Père. Il est dit dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus se nourrissait de la volonté de Dieu. Parfois, pour nous, c'est dur de faire la volonté de Dieu. On va plus le subir et le considérer parfois comme une punition ou une privation. Mais Jésus, lui, il s'en nourrissait. C'était ce qui le faisait grandir et c'était aussi ce qui lui permettait de bénir autour de lui. Alors, le problème, c'est que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, seraient sauvés. Mais il est dit, au verset 16, qu'ils ne sauveraient ni fils ni fille et qu'eux seuls seraient sauvés. Ça, c'est quand même un problème. Il est vrai, il est dit dans la parole que la prière fervente du juste a une grande efficace, et là on a trois hommes justes, mais on a trois hommes justes dont les prières et l'intercession, bien que ce soit des hommes écoutés de Dieu, ne suffiraient pas. Et je me suis posé la question en fait, pourquoi ces trois hommes qui ont toujours été entendus par Dieu dans leur époque, qui ont été fidèles à Dieu et qui ont été entendus, pourquoi ces trois hommes ne sauveraient pas ce peuple de Jérusalem? Donc on est à l'époque de 600 ans avant Jésus-Christ et avant la destruction de Jérusalem. Et en fait, c'est que les anciens sont devenus idolâtres, donc on a atteint un point culminant, je dirais, dans l'idolâtrie et dans le fait de déplaire à Dieu, de défier Dieu. Le peuple s'est complètement détourné de Dieu et on a atteint là un point de non-retour. Et ce que j'ai vu dans l'Écriture, en fait, c'est que Dieu a averti le peuple de Jérusalem pendant très, très, très longtemps. Le prophète Joël, Amos, Michée, Ésaïe, Sophonie, Habacuc, Jérémie et donc Ézéchiel ont tous apporté au peuple de Jérusalem le message de l'Éternel et la destruction à venir si le peuple ne se conformait pas à la volonté de Dieu. Joël, c'est 830 avant Jésus-Christ. Jérémie, c'est à peu près 580. Pendant plus de 240 ans, Dieu a envoyé des messagers au peuple, avec des messages très explicites. Quand on lit les livres des prophètes, on peut pas dire après coup « j'avais pas bien compris » ou « c'était pas suffisamment clair ». Non, c'est très très clair, parfois très sévère, très dur. Et je crois qu'il est arrivé un moment où le Seigneur dit « stop ». Il arrive un moment où nous avons été suffisamment prévenus et la parole de Dieu s'accomplit. Donc ces trois hommes ont, chacun à leur époque, ont eu du résultat, je dirais, par rapport à leur vie de prière avec Dieu. Mais ici, ils ne sauveraient ni fils ni filles, Et j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas vraiment le sujet du message, mais j'ouvre la parenthèse sur le sujet de nos enfants. Il y a un appel pour nous, nous tous, hein, qu'on soit parents ou pas d'ailleurs, à veiller sur nos enfants, à veiller dans les conditions dans lesquelles nous les plaçons, que ce soit au niveau social, au niveau éducatif. Pourquoi ? Parce que s'ils sont dans un environnement corrompu, comme il est décrit ici, en fait, il va arriver un moment où nos prières, même si nous sommes justes devant Dieu, il va arriver un moment où nos prières pourraient ne plus suffire pour les ramener à Dieu, pour les amener à accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, faisons attention à nos enfants, nos propres enfants, mais aussi les enfants qui sont autour de nous, dans nos familles, à l'Église. Nous avons tous un appel de Dieu à faire attention à nos enfants. Voilà, donc soyons intègres vis-à-vis de Dieu, réservons-nous au milieu de notre génération, restons fidèles en prière, en intercession, parce que nous ne serons pas épargnés. Il est dit que nous subirons les tribulations, et c'est aussi ce que dit ce texte. C'est ma deuxième partie qui concerne les quatre châtiments terribles qui sont présentés dans ce chapitre d'Ézéchiel 14. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, à partir du verset 7, ces quatre châtiments terribles sont de nouveau évoqués. Il est dit « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens, je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Ces quatre fléaux, en fait, sont une réalité. Une réalité biblique, une réalité dans les temps présents pour nous, mais également dans les temps à venir, comme il est dit ici dans l'Apocalypse. Ce sont quatre fléaux que nous pouvons, nous, vivre aujourd'hui, que nous pouvons expérimenter dans trois dimensions. Une dimension globale, mondiale, puisqu'on est habitant de la planète. Donc ces quatre fléaux sont présents aujourd'hui dans notre génération. Nous les vivons aussi à un niveau plus personnel, de façon, je dirais, plus concrète, plus pratique dans nos vies. Et puis, nous les vivons aussi au niveau spirituel. Pour ce qui est de l'épée, l'épée représente la guerre, les conflits. Et dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, c'est une réalité. Nous le vivons au niveau personnel. Les disputes, les attaques, les intimidations sont des choses que nous pouvons rencontrer dans notre vie, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans notre voisinage. Mais également au niveau spirituel, puisque nous sommes la cible de combat, d'attaque de l'ennemi, et que nous devons y faire face. C'est une réalité spirituelle. La famine également, la famine au niveau mondial, c'est la résultante de crises économiques, de crises alimentaires, qui viennent frapper les pays les plus vulnérables, mais qui viennent aussi concerner nous, ici en France, la résultante de problèmes financiers. De façon concrète, dans nos vies, on peut rencontrer des difficultés financières qui vont amener des difficultés ou des problématiques à se nourrir. J'ai lu et j'ai été surpris du chiffre qu'un Français sur trois ne mange pas à sa faim. Ça fait beaucoup, un Français sur trois, surtout dans un pays développé comme le nôtre. C'est vraiment une réalité. La famine et la difficulté à se nourrir est une réalité. Au niveau spirituel, elle peut s'apparenter à la sécheresse. Une sécheresse, une période de nos vies où nous sommes coupés de Dieu, où la relation avec Dieu est rompue. Parce que des événements dans notre vie ont fait que nous sommes arrivés dans cette situation, parce que peut-être nous avons manqué aussi, à un moment donné, de courage ou d'abnégation pour rester fidèles à Dieu. Et c'est un fléau que nous pouvons vivre au niveau spirituel. La peste ou la maladie est une réalité au niveau mondial. On a connu des crises sanitaires il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau personnel, bien évidemment, les maladies ne manquent pas de nous toucher. Et au niveau spirituel, des maladies aussi peuvent nous atteindre. L'aveuglement spirituel, l'orgueil, l'apostasie sont des maladies spirituelles. Et les bêtes féroces. Alors les bêtes féroces du temps d'Ézéchiel, voilà, on pouvait imaginer que quand on sortait du village, on pouvait être attaqué par une bête. C'est moins évident aujourd'hui. Malgré tout, si on y réfléchit, dans notre monde actuel, il y a des maladies qui sont transmises des animaux à l'homme. Et de plus en plus. J'ai lu des articles très sérieux là-dessus, vous pourrez vous renseigner. C'est même surprenant de voir le nombre de maladies qui sont transmises à l'homme et qui viennent des animaux. On appelle ça les zoonoses. Au niveau plus personnel, on peut être victime d'attentats, d'agressions, etc., qui sont des comportements qui peuvent s'apparenter à des comportements d'animaux, de bêtes féroces. On en a connu aussi, même en France, il n'y a pas si longtemps. Et au niveau spirituel, Le livre de 1 Pierre au chapitre 5, verset 8, nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Au niveau spirituel, il y a aussi face à nous des bêtes féroces, des bêtes sauvages, et notamment une qui veut nous atteindre, qui veut notre perdition. Donc on voit bien que ces quatre fléaux qui sont présentés ici par Ézéchiel au peuple de Jérusalem sont aussi des réalités pour nous actuellement. Nous les vivons, tout un chacun, de façon très concrète ou au niveau spirituel. Mais nous avons une certitude, c'est que quels que soient les combats spirituels que nous avons à mener, Dieu nous a donné des armes pour y faire face. Contre l'épée, nous avons Dieu qui est notre bouclier. Genèse 15:1 nous dit « Je suis ton bouclier ». Notre foi est un bouclier. Notre foi peut nous permettre de nous défendre contre l'épée de l'ennemi. Concernant la famine, il est dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la famine spirituelle, la sécheresse spirituelle peut être une réalité. Mais lorsque nous sommes coupés de Dieu, lorsque nous sentons dans une saison aride, un désert dans nos vies, tournons-nous vers la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle pour nous. Au sujet des bêtes féroces, dans Marc 1, au verset 13, alors que Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit, il est dit qu'il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque nous sommes dans un danger imminent, lorsque l'ennemi est près de nous et qu'il est prêt à nous attaquer telle une bête féroce, Dieu pourvoit notre besoin, Dieu pourvoit notre secours. Et enfin, la peste et plus globalement les maladies se combattent par la prière. Et Jacques 5,14 nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Donc soyons intègres vis-à-vis de Dieu. Mettons-nous à part dans notre génération. Restons fidèles à Dieu dans la prière, dans l'intercession, parce que nous allons avoir des combats. Nous les avons déjà. Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Et pourquoi nous devons remporter cette victoire? Parce qu'il est dit dans le livre dans le chapitre 14 d'Ézéchiel que nous sommes appelés à échapper à ces fléaux et à porter du fruit autour de nous. C'est ma troisième partie qui concerne donc le reste, le peuple de Dieu, le reste qui échappera, qui sortira des fléaux et qui consolera. On va relire le verset 22, Ézéchiel 14, verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem. Amen. Le reste, c'est nous, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui est resté fidèle à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes appellent le reste soit une partie de la population qui a réchappé suite à un désastre qui va frapper une ville ou un pays, comme ici Jérusalem. Mais il parle aussi au reste, le peuple qui va rester fidèle à Dieu et dont Jésus-Christ, le Messie, va devenir le chef. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 2, verset 12, il est dit « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes, celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront, leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Amen. C'est une promesse pour le peuple de Dieu, pour le reste. Alors le reste, dans la façon de parler d'aujourd'hui, le reste c'est ce qu'on met un peu de côté, ce qu'on ne veut pas, ce qui ne plaît plus, ce qui n'est plus à la mode, ce qui ne veut plus être consommé, ce qu'on aurait tendance à jeter à la poubelle. Dans la bouche de Dieu, le reste c'est glorieux. Et amen pour faire partie du reste. Et amen pour cette promesse. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Le Seigneur va nous rassembler. Il nous a déjà rassemblés. Mais il va encore nous rassembler. Et ce reste est amené à avoir un impact autour de lui. Le reste dont nous faisons partie, chacun dans nos vies, nous sommes appelés à avoir un impact autour de nous. Au verset 22, il est dit que ce reste en échappera et en sortira. On a vu que Noé, Daniel et Job faisaient partie du peuple. Ils n'ont pas été épargnés par les quatre châtiments, comme nous ne sommes pas épargnés. Par contre, il y a ici une promesse. C'est que nous allons en échapper et nous allons en sortir. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 17, il est dit que le dragon ira faire la guerre au reste de la postérité. Et un peu plus loin, le reste est décrit comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors même si le dragon vient m'attaquer, moi je veux faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen, parce que la victoire, elle est pour nous. Je suis allé jusqu'au bout du livre, l'Apocalypse, c'est nous qui gagnons. J'ai spoilé un peu le truc, mais pour ceux qui n'ont pas lu, mais c'est la réalité. À la fin, c'est nous qui gagnons. Notre âme en échappera et en sortira vainqueur. Amen. Alors pourquoi ? Alors on pourrait en échapper, en sortir ? Ben parce qu'on a le salut, on est sauvé. Je suis content d'être sauvé. Je suis content pour mon frère, ma sœur qui est sauvé. Mais ça ne suffit pas. Dieu attend de nous, au-delà de notre salut, que nous soyons des exemples autour de nous. Nous sommes appelés à aller vers les autres. Et par notre intermédiaire, Dieu veut sauver encore, encore et encore. Au verset 23, il est dit que ce reste consolera. C'est donc notre mission en tant que peuple de Dieu qui est béni, qui est mis à part. Nous sommes appelés à consoler autour de nous. Dans la version hébraïque, le mot consoler, c'est le mot nacham, N-A-C-H-A-M. Donc ce mot nacham, qui est traduit par consoler ici, il a une signification un peu plus large que juste consoler. C'est consoler, mais c'est aussi être réconforté, se repentir et regretter. Donc c'est un peu plus large que juste consoler. Il y a un appel à aller vers les autres, à consoler. Pourquoi ? Pour amener à une repentance. Et c'est en nous voyant que les personnes qui sont autour de nous, qui font partie du peuple qui a tourné le dos à Dieu, c'est en nous voyant et en voyant nos actes que ce peuple-là peut être ramené à Dieu. Alors comment ferons-nous ? Ézéchiel 15, 23 nous dit « par notre conduite ». Juste par notre conduite en fait. C'est notre conduite devant Dieu et que les hommes voient autour de nous qui va faire que nous allons pouvoir nachamer, c'est-à-dire un peu plus que consoler et amener à la repentance. Alors comment se conduire ? Il y a un texte dans Galates 5,16 qui décrit parfaitement la façon dont nous devons nous conduire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons chercher à marcher selon l'esprit. Nous devons être habités de l'esprit pour pouvoir justement avoir cette conduite que Dieu attend de nous. Et éviter justement les désirs de la chair qui sont évoqués dans ce texte de Galates 5,16. Le désir de la chair, on ne va pas en parler là tout de suite parce qu'il y en a 15 plus les choses semblables, c'est-à-dire qu'il y en a 15 et beaucoup, beaucoup plus. Donc on ne leur fait pas de publicité ce soir. Par contre, il faut les connaître pour mieux les combattre. Donc il est intéressant de les avoir en tête. À l'inverse, nous consolerons par notre conduite et par les actions qui résultent de notre conduite. Et quelles sont ces actions ? Toujours dans Galates 5, verset 22. Ce sont les fruits de l'esprit. Puisque nous marchons selon l'esprit, nous serons remplis des fruits de l'esprit. Il y en a 9, on peut les citer, ceux-là, c'est bon, si vous les connaissez. L'amour, vous pouvez le dire avec moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen, c'est un beau programme. Si on a tout ça en nous, si on porte tout ça en nous, qu'on marche avec ça, que ce soit dans notre environnement familial, professionnel, ailleurs, nous allons consoler, nous allons nachamer, nous allons amener une consolation qui est plus qu'une simple consolation, qui va amener à une repentance. C'est notre mission en fait, c'est ce que Dieu attend de son reste. Sur cette terre, l'apôtre Pierre a dit que nous sommes des voyageurs, et c'est vrai. Nous sommes des voyageurs, nous sommes en transit. Et si nous sommes là, si Dieu nous a placés ici, c'est parce qu'il a une mission pour nous. Et cette mission, c'est d'avancer avec l'Esprit Saint en nous, et par cet Esprit Saint, d'avoir des actions qui amènent à cette consolation, et amener du réconfort et la repentance autour de nous. Donc je récapitule, soyons intègres, mettons-nous à part, restons fidèles en prière pour combattre les fléaux, parce qu'ils sont là, ils sont présents, nous les vivons tous les jours. Pourquoi ? Parce que nous allons en réchapper par la grâce de Dieu. Et le fait d'en réchapper va nous permettre de consoler autour de nous. Amen. Alors la réalité, c'est que comme Noé, Daniel et Job, nous ne sauverons personne. Ça, c'est triste. Mais c'est l'Esprit qui est en nous qui va sauver. Dieu seul sauve. Nous, on est des instruments entre les mains des dieux. Quel que soit notre service, il est bon de se rappeler que nous ne sommes qu'au service de Dieu. Et nous sommes au service de Dieu, ce qui est déjà en soi quelque chose de fabuleux. Dans le livre de Job, au chapitre 9, au verset 2, il y a une question juste essentielle qui est posée. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Pour de nombreux croyants qui ont vécu durant l'Ancien Testament, beaucoup se sont posé cette question. Comment serons-nous justes devant Dieu ? Dieu avait donné à son peuple une loi avec des commandements à observer, mais personne n'a pu respecter cette loi. En fait, elle n'a fait que prouver les limites de l'homme devant Dieu, que par nos efforts, en fait, il est incapable d'être irréprochable devant Dieu. Mais Jésus est venu. Dieu a donné Jésus pour nous. Et nous sommes justifiés gratuitement aujourd'hui. C'est la différence entre Noé, Daniel et Job, qui ne pouvaient sauver personne, et nous qui avons l'Esprit, qui avons Jésus. Nous sommes justifiés devant Dieu parce que Jésus est venu pour nous. Il est venu pour le salut de nos âmes. Le sang de Jésus, c'est ce qui est le moyen de notre justification et qui atteste que le péché a été jugé. Dans Romains 5:1, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est par la foi que nous pouvons saisir cette paix, ce don merveilleux et gratuit. Alors notre corps n'est peut-être pas immunisé contre les quatre fléaux, les quatre châtiments, mais notre âme, elle l'est, par l'action de l'Esprit en nous. Jésus est venu pour sauver nos âmes, et la promesse qu'il nous fait, c'est qu'un jour il va revenir, il va rassembler son troupeau, il va rassembler son reste, il sera notre berger et il va nous guider. Je termine avec un verset dans Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous pouvons saisir cette grâce. En fait, nous pouvons inscrire nos vies dans cette réalité du sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Nous ne sauverons personne. Par contre, on a une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Aujourd'hui encore, il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Ce soir, nous allons prier, nous allons intercéder. Il va entendre nos prières, il va les porter auprès du Père. Il intercède jour et nuit auprès du Père pour nous. Et à travers lui, nous pouvons agir, nous pouvons consoler, nous pouvons sauver des âmes, parce que lui, il va être à l'œuvre dans la vie des personnes avec qui nous serons en contact. Nous pouvons le faire notamment ce soir par la prière et par l'intercession. Amen.